Phil PM. Politique.
À compter d'aujourd'hui, j'ai désigné M. Mario Bouchard, qui est actuellement directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, pour assurer l'intérim à la direction de la Sûreté du Québec durant l'examen de la situation. Compte tenu de l'enquête qui est en cours, vous comprendrez que je ne ferai aucun autre commentaire en rapport avec le dossier.
Voici Paul Journet.
Wow, ça vient de tomber, là. Le directeur, donc, de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, est relevé de ses fonctions à la suite d'allégations de nature criminelle. Et c'est Geneviève Guilbeault, donc, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre que vous venez d'entendre, donc, qui confirme cette information. Donc, la ministre de la Sécurité publique, qui relève temporairement de ses fonctions Martin Prudhomme le temps que cette enquête criminelle soit menée. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Wow.
Oui. On dirait que quand les crises arrivent jamais seules, hein, pendant que tous nos regards sont tournés vers Ottawa pour le témoignage de Gérald Botts, bien, on apprend ça. Des allégations de nature criminelle contre Martin Prudhomme. L'information a été communiquée le 5 mars, hier, au Conseil exécutif. Ça, c'est le ministère du premier ministre
exact.
À Québec.
Exact.
Et ils ont relevé provisoirement Martin Prudhomme de ses fonctions durant l'enquête. Et je note, selon le communiqué, que l'enquête va être menée par le Bureau des enquêtes indépendantes. Souviens-toi, ça, c'est l'organisme qui intervient quand il y a des blessures graves ou un décès à la suite d'une intervention policière ou quand il y a d'autres allégations là, très, très graves concernant les forces policières. Et de toute évidence, c'en est une. C'est le patron de la Sûreté du Québec.
OK, mais à suivre, hein, parce que pour le moment, on peut pas vraiment en dire beaucoup plus. Là, ça vient tout juste d'arriver. Parle-nous du témoignage donc de Gérald Botts qui a eu lieu ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit en résumé?
En résumé, bien, il a dit qu'il n'y a rien d'inapproprié qui s'est passé. Il a dit que le gouvernement, le bureau de Justin Trudeau, avait le droit d'expliquer à Mme Wilson-Raybould en quoi ça pourrait être souhaitable de conclure un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Souviens-toi, donc ça voudrait dire que SNC-Lavalin paierait une amende, reconnaîtrait ses torts, changerait la culture à l'interne, le tout sous supervision d'un juge, et qu'en échange, elle ne serait pas bannie des contrats publics. L'objectif, évidemment, c'est que les 9000 employés d'SNC-Lavalin au Canada soient pas punis par toutes les cochonneries qui ont pu être faites par les hauts dirigeants, parce qu'on sait que si SNC-Lavalin est reconnu coupable au criminel, ben, elle n'a pas accès aux contrats publics. Donc, M. Botts dit, il n'y a rien d'inapproprié, on a fait ce qu'on avait le droit de faire. Il dit, ça c'est important, qu'en tout temps, autant lui que le reste du gouvernement reconnaissait que la décision finale revenait à Mme Wilson-Raybould. Il dit « On savait que la seule personne qui était capable de dire que oui, on veut un accord, c'était Mme Wilson-Raybould, la procureure générale. » Et ils disent que on n'y a pas fait de pression indue, sinon la preuve, ben, on aurait un accord. Il n'a pas eu, donc on n'a pas été trop loin.
Ouais, je suis pas sûr de cet argument-là, là, mais est-ce que les partis d'opposition lui ont posé des questions sur l'incidence électorale? Parce qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits à un moment donné. C'est Wilson-Raybould qui en témoignait la semaine dernière. Là, dans les discussions à un moment donné qu'elle a eues avec des gens de l'entourage de Trudeau, on faisait référence au fait qu'il fallait s'occuper du dossier d'SNC-Lavalin parce que ça pourrait nuire au Parti libéral en élection. Est-ce que des questions lui ont été posées là-dessus?
Oui, il n'y a pas eu beaucoup de réponses parce que le problème avec M. Bott, c'est qu'il n'était pas au cœur de tous les échanges. C'était un des 11 interlocuteurs qu'il y a eu avec Mme Wilson. Donc, lui, il peut donner sa version des faits, mais il n'était pas tout le temps là. Donc, on n'a pas fait toute la lumière là-dessus. Il y a eu aussi un échange très intéressant avec le député Charlie Angus du NPD qu'on peut entendre.
Mr. Angus.
It's about her credibility.
It is about what happened.
Okay.
And there are different perspectives on what happened.
I see.
I am not here to call anybody names, and you will not get me.
I'm not asking you to call someone names. I'm asking whether or not there was interference because facts, my friend, as you said.
No was the answer to that question.
OK. Alors lui, Angus, le néo-démocrate, dit, c'est à, dans le fond de la question, c'est est-ce qu'elle est crédible, Mme Wilson-Raybould? Et lui, botte de répondre, non, c'est pas à propos de sa crédibilité, c'est à propos des faits et de ce qui est arrivé. Et là, il y a différentes perspectives sur ce qui est arrivé. Et non, il n'y a pas eu d'interférence.
Oui, c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'il dit c'est pas seulement une question factuelle, c'est la perception des faits. Parce que ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a eu interférence, donc est-ce que les pressions ont été trop loin? Puis ça, c'est la perception de la nature des pressions. Puis je te dirais que ça revient aussi à la question de savoir est-ce que la décision de Mme Wilson-Raybould était finale? Et si oui, à partir de quand? Parce que si sa décision n'était pas encore finale, c'est normal que le gouvernement lui parle, lui explique en quoi ça pourrait être souhaitable d'appliquer la loi. Parce qu'il faut rappeler que c'est une nouvelle loi qui n'a jamais été appliquée, que c'est un dossier complexe où il faut que tu pèses les pour et les contre pour l'intérêt public. Donc, je ne veux pas que le ministre décide ça seul dans son coin. Et M. Botts dit, et c'est vrai, il dit, sur le plan juridique, tant que SNC-Lavalin, tant qu'on n'a pas eu le verdict, ben, c'est encore possible de conclure l'accord. Donc, la décision, techniquement, ne pouvait pas être finale. Ça, c'est sa version. Par contre, Mme Wilson-Raybould, elle a dit tout autre chose lors de son témoignage. Elle a dit, écoutez, moi, j'ai vu deux conseils de M. Trudeau. Je leur ai dit, ma décision là, est finale.
Je ne vais pas émettre de directive.
Je ne le ferai pas. Oui, j'en émettrai pas.
Oui.
Puis M. Botts dit, ben moi, c'est seulement lorsqu'elle a témoigné que j'ai appris que sa décision était finale. Moi, je ne le percevais pas comme ça. Et si Mme Wilson-Raybould disait que c'était sa décision finale, il aurait fallu qu'elle avise le premier ministre par écrit. Par contre, l'opposition a été bonne. Elle lui a dit, écoutez, Mme Wilson-Raybould, elle a dit à deux proches conseillers, pas des pic-pics, là, des grands conseillers de M. Trudeau, elle leur a dit, c'est ma décision finale. Donc, elle aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que le message soit communiqué au bureau de M. Trudeau.
Écoute, je trouve que les deux arguments se valent, moi.
Oui, mais c'est pour ça que c'est deux différentes perspectives sur les faits. Un autre dossier où c'est pas si simple, c'est l'histoire du remaniement. Donc, ne jouons pas sur les mots, là, elle s'est fait tasser du ministère de la Justice. Et encore là, on peut écouter un extrait de Gerald Butts qui assure que le dossier SNC avait rien à voir avec le remaniement.
The January cabinet shuffle had absolutely nothing to do with SNC-Lavalin.
Ce qu'il dit, c'est que si il n'y avait pas eu le départ de Scott Brisson, président du Conseil du Trésor, il n'y aurait jamais eu de remaniement. Mais le problème, c'est qu'il dit que c'est un fait. Mais non, c'est invérifiable. On ne peut pas dire que c'est un fait, c'est une interprétation, puis elle est irréfutable parce que invérifiable.
Ouais, mais en fait,
on ne sait pas ce qui se serait passé si Scott Brisson n'avait pas démissionné. Il n'y a personne qui peut le dire.
Non, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce bout-là de son témoignage que j'ai entendu, c'est qu'il dit, à partir du moment où Bryson s'en va, nous autres, il faut le remplacer. Et là, on décide de prendre Phil Pott, qui est aux affaires autochtones, de l'amener au Trésor pour remplacer Bryson. Et là, on offre à Wilson-Raybould le poste de ministre des Affaires autochtones. Il faut rappeler qu'elle a été une chef autochtone pendant plusieurs années. Elle a passé une bonne partie de sa vie à défendre la cause autochtone. Et ce que dit Bott, c'est que nous autres, on pense, en lui offrant ce poste-là, qu'elle va être contente. Qu'elle va être contente de partir de la justice pour aller aux Affaires autochtones. Et finalement, elle refuse le poste. Et d'ailleurs, il dit, on était tous surpris, c'était la première fois qu'un ministre ou qu'une ministre refusait une proposition du premier ministre pour être nommé ministre. C'est la première fois qu'on voyait ça. Et la réponse, la raison pour laquelle elle a refusé, c'est qu'elle refusait d'aller appliquer la loi sur les Indiens parce qu'elle s'est toujours battue contre la loi sur les Indiens. C'est pour ça qu'elle a refusé la proposition de Trudeau. Puis finalement, elle s'est retrouvée avec les anciens combattants. Je résume bien?
Tout à fait. C'est vrai que c'est inhabituel, mais écoute, je ne vais pas commencer à reprocher à Mme Wilson-Raybould d'agir conformément à ses principes. Puis on le sait, la loi sur les Indiens, elle est dénoncée depuis des décennies et des décennies. Puis la raison pour laquelle elle est encore en vigueur, c'est entre autres parce que les politiciens et les leaders des différentes Premières Nations ont de la difficulté à s'entendre sur qu'est-ce qui la remplacerait. Écoute, elle pouvait bien refuser ça. C'est
d'accord.
Ce qui explique qu'elle est allée aux anciens combattants. Écoute, c'est un des différents aspects de
la question.
Histoire.
Juste avant que tu ailles à l'autre sujet, j'ai un auditeur qui m'amène un bon argument. Il dit, si la décision était finale, comme le disait Wilson Raybould. Comment se fait-il que l'Amethi peut encore la changer? Dit maintenant qu'il peut encore donner un accord de réparation. Ben, c'est un bon argument, là.
Ben, on revient, c'est la version de M. Botts. Comme je te l'ai dit tantôt, M. Botts dit, et sur le plan juridique, c'est vrai que tant que la cause n'a pas été entendue par les tribunaux et tant qu'il n'y a pas eu de verdict de culpabilité ou non-culpabilité, ben, c'est encore possible de conclure l'accord. Et c'est, en effet, la raison pour laquelle le successeur de Mme Wilson-Raybould, David Lametti, peut encore décider de conclure un accord. Voilà. Par ailleurs, il me semble que ça serait peut-être une bonne idée qu'on connaisse la réponse de M. Lametti et que M. Trudeau, s'il le souhaite, en parle, même si la décision ne revient pas à M. Trudeau lui-même. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Vont-ils parler? M. Trudeau devrait parler. En tout cas, il, je ne sais pas s'il va parler, mais c'est dans son intérêt. Et on nous indique que tout ce qui lui reste à décider, c'est le forum sur lequel il va s'exprimer. Et ça devrait venir bientôt.
Et le moment. Et le moment. Trudeau pourrait parler cet après-midi ou en début de soirée ou encore demain matin. Hein? Ce sera évidemment un gros un gros morceau de cette affaire SNC-Lavalin lorsque le premier ministre va finalement donner sa version des faits. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci, Paul.
Merci, Bernard.
OK, on continue tout de suite après la pause avec Michel Barrette. Il va nous parler notamment tatouage.